C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, ça se chiffre en milliards et ce n'est pas fini. Le masque jetable est devenu l'allié indispensable pour limiter la crise sanitaire. De recommandé, il est devenu obligatoire dans de nombreuses villes du monde. Après les sacs et les bouteilles en plastique, les rivières et l'océan sont désormais pollués par ce petit objet bleu qui contient lui aussi du plastique. Il faut le recycler. Quelques entreprises se sont lancées dans le business, mais à des échelles tellement insignifiantes. Ce masque n'est qu'un exemple de l'industrie du jetable qui est en plein essor depuis les années 80. En quelques dizaines d'années, la durée de vie des objets a raccourci. La mondialisation et sa complice, la grande distribution, ont multiplié les flux de matière. Nos quantités de déchets ont explosé partout. La solution serait donc le recyclage. Et si ce n'était qu'un grand enfumage, on en parle tout de suite avec notre invité.
C'est pas du vent sur RFI.
Recyclage, le grand enfumage, comment l'économie circulaire est devenue l'alibi du jetable. C'est le titre de votre dernier livre publié aux éditions Rue de l'Échiquier. Fleur Berlingen, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de l'association Zéro Waste France. Alors, votre livre dresse un état des lieux de l'explosion de nos quantités de déchets et de l'arrivée d'un principe qui s'impose comme une solution depuis quelques années, le recyclage. Alors, ce serait donc un grand enfumage.
Alors l'enfumage, c'est de considérer que le recyclage, c'est la solution numéro un. Là où en réalité, il faudrait avant tout réduire les quantités que l'on consomme et que l'on jette. Donc la priorité, elle devrait être donnée à la prévention, à ce qu'on appelle la prévention, la réduction à la source des déchets. Et malheureusement, on se focalise sur les solutions de recyclage, peut-être parce qu'elles semblent comme ça plus accessibles. Peut-être aussi parce qu'il y a des activités économiques assez rentables pour certaines derrière. Et donc voilà, tout ça concourt au fait que le recyclage devient un élément de justification de l'industrie du jetable et que c'est ça le problème, parce que ça nous empêche de nous attaquer véritablement à la source de la surconsommation.
Alors on va préciser ce que l'on entend par recyclage.
Oui, parce que c'est vrai que le recyclage, dans le langage courant, on peut l'utiliser pour parler de réutilisation d'une manière générale. Là, évidemment, ce que je vise, ce que je désigne par recyclage dans cet ouvrage, c'est ce qu'on appelle la valorisation matière. C'est quand on détruit un objet pour essayer d'en récupérer le matériau. Mais voilà, on a quand même détruit l'objet initial, la bouteille en plastique ou le vêtement, etc. Là où on parle de réutilisation ou de réemploi, quand on va réparer et réutiliser tel quel.
Oui, il y a une différence parce que, en effet, dans ces cas-là, on perd moins de matière. Enfin, on va essayer de détailler tout ça dans cette émission. Mais tout d'abord, pour prendre conscience de l'ampleur de la circulation des déchets dans le monde, je vous propose d'aller au Kenya. Bonjour Charlotte Simonard.
Bonjour.
Vous êtes la correspondante de RFI à Nairobi. Alors le Kenya pourrait bientôt devenir la poubelle ou la nouvelle destination des déchets plastiques américains. Pour information, un Américain consomme en moyenne 80 kilos de plastique par an contre seulement 5 kilos pour un Africain. Alors Charlotte Simonard, le Kenya pourrait donc, je le disais, devenir la porte d'entrée des plastiques américains vers l'Afrique.
Oui, en tout cas, les Américains vont tout faire pour dans le cadre d'un potentiel accord commercial entre les deux pays. Alors, les négociations officielles n'ont pas encore commencé, mais chaque partie, Kenya, États-Unis, est en train de déterminer ses objectifs en amont donc de ces négociations. Derrière les États-Unis, il y a en fait l'American Chemistry Council qui regroupe des producteurs de pétrole et de dérivés pétrochimiques. Vous savez, les grands noms comme Shell, ExxonMobil, Chevron, etc. C'est un lobby très puissant, soutenu par l'administration Trump. Alors l'idée officielle, c'est de pousser le Kenya à développer une filière industrielle de recyclage pour les déchets américains et d'en faire même un hub pour exporter ces plastiques recyclés vers les autres pays d'Afrique.
Alors pourquoi est-ce que les Américains choisissent le Kenya comme destination ?
Alors d'abord, il faut recontextualiser un peu. Donc depuis 5 ans et la baisse du prix du pétrole, les pétroliers cherchent à diversifier leurs activités et ont ainsi investi massivement dans la pétrochimie. Donc vous savez, tous les produits dérivés du pétrole, à commencer par le plastique. Du plastique, il faut exporter pour le recycler. En 2019, 500 millions de tonnes de déchets plastiques américains ont ainsi été envoyés dans le monde. La Chine en importait la grande majorité, mais depuis, le pays n'en veut plus. Donc il a fallu trouver d'autres amateurs des déchets américains. C'est ainsi que le Kenya est apparu comme une solution de choix. C'est un pays avec de bonnes infrastructures, une économie développée. Et grâce à ses liaisons aériennes et ferroviaires, il sera facile d'exporter ce plastique sur le continent et en faire donc un hub en la matière.
Et pourtant, le Kenya a adopté en 2017 l'une des législations les plus sévères en matière de production et de consommation de plastique.
Oui, c'est une décision qui était saluée à l'époque par la communauté internationale. Produire, vendre, importer ou utiliser des sacs plastiques est passible d'une lourde amende et jusqu'à 4 ans d'emprisonnement. Alors aujourd'hui, les Américains militent pour pouvoir contourner cette loi kényane au nom de cette grande industrie du recyclage qu'ils vont contribuer à mettre sur pied. Mais en réalité, ce serait catastrophique pour le Kenya. Vous savez, moins de 8% du plastique sont réellement recyclés. Le reste part en déchets purs et durs. Et de cela, les Américains ne parle pas. Hein. Or, la gestion des déchets ici est déjà problématique. L'un des symboles étant cette colline appelée la colline de Dandora au cœur des bidonvilles de Nairobi, qui est une décharge à ciel ouvert qui grandit à mesure que la population urbaine augmente. Les rivières, l'air, le sol sont infestés de déchets avec les conséquences sanitaires que cela implique. Et le Kenya n'a pas d'infrastructure adéquate pour traiter des millions de tonnes de déchets venus des États-Unis.
Alors pourquoi le Kenya accepterait-il cet accord ?
Alors le timing des discussions est très avantageux pour les Américains. Vous savez, l'économie kényane est frappée de plein fouet par la crise du coronavirus, avec notamment l'arrêt du secteur touristique. Donc c'est très facile de faire accepter aux autorités kényanes n'importe quel accord, pourvu qu'il redresse son économie. Alors selon les médias kényans notamment, l'accord pourrait prévoir un libre accès réciproque pour les deux pays au marché kényan et américain. Donc ce serait la promesse de voir des entreprises américaines s'installer ici au Kenya, en étant exonéré de taxes, par exemple, promesse également de création d'emplois, etc. Et vous savez, Uhuru Kenyatta, le président kényan, ce n'est pas un écolo, hein, c'est un businessman très libéral qui ne s'encombrera pas de considérations environnementales pour conclure un accord commercial.
Alors, est-ce que cet accord est sur le point d'être signé ? Quel est l'agenda ?
Alors non, les discussions ont à peine commencé, mais pas encore réellement les négociations. La loi américaine prévoit en fait un maximum de 2 ans de négociations avant de signer un accord commercial. Alors ça peut aller très vite, d'autant que Kenyatta, le président kényan, s'est dit impatient de conclure cet accord. Impatient pourquoi ? Eh bien parce qu'il devra quitter le pouvoir en 2022, après 2 mandats. Il est obligé, il prépare d'ailleurs sa succession. Et il voudra sans doute signer cet accord avant son départ pour pouvoir le mettre à son actif. Ce serait le premier accord bilatéral signé par les États-Unis avec un pays africain et ça ferait toute la fierté des autorités kényanes. Mais il va falloir faire face aux défenseurs de l'environnement qui sont scandalisés ici par cet accord et qui feront tout pour l'en empêcher.
Merci beaucoup Charlotte Simonard. Vous êtes donc notre correspondante à Nairobi. Flore Berlingen, l'Afrique qui a déjà du mal à gérer ses propres déchets. On l'entendait à travers ce que disait Charlotte à l'instant. Les déchets dont le nombre, même au sein même du continent africain, ne cesse d'augmenter, deviendraient donc la poubelle du monde après l'Asie finalement.
Ce cas, il est emblématique et ce qu'il révèle, c'est que finalement, ce sont nous, les pays occidentaux, qui avons du mal à gérer nos propres déchets, puisqu'on a besoin de les exporter, d'en exporter une partie dans d'autres pays du monde. Et effectivement, la fermeture des frontières chinoises au plastique qui lui était envoyé massivement, et notamment par les États-Unis, effectivement, a vraiment joué le rôle d'un révélateur de cette situation à l'échelle internationale. Donc, depuis 2 ans, on parle énormément des exports de déchets, ce qui n'était pas le cas avant. Alors c'est plutôt une bonne nouvelle qu'on en parle et que ce soit mis aussi en débat, en discussion, parce que effectivement, l'impact de la gestion de nos déchets est délocalisé.
Alors les États-Unis ne sont pas le seul pays à exporter leurs déchets, hein.
Non, pas du tout. Après, c'est vrai que dans leur cas, ils étaient extrêmement dépendants des capacités de traitement chinoises. Mais c'est le cas pour de nombreux autres pays. y compris la France, alors dans une moindre mesure pour ce qui concerne les emballages, mais parfois pour d'autres types de déchets, effectivement, l'export peut être une voie importante.
Oui, parce que là, on parlait du plastique, mais il y a d'autres flux, hein. Il y a le textile, les déchets électroniques, le papier.
Absolument. Pour les textiles, par exemple, la part de textiles collectés qui part à l'étranger est extrêmement importante. Ça représente 95% de ce qui est envoyé en réemploi. Alors là, pas pour recyclage, théoriquement pour réemploi, c'est-à-dire réutilisation des vêtements qui sont théoriquement portables. Mais voilà, ça représente une grande quantité qui ne trouve pas de débouché en France.
Alors la solution portée par de nombreux gouvernements serait donc le recyclage. Alors je vous propose d'aller sur la côte ouest des États-Unis, à San Francisco, célèbre pour son emblématique pont du Golden Gate et ses maisons victoriennes colorées. C'est aussi une ville qui a fixé un objectif ambitieux à ses 900 000 habitants, recycler ou composter 100% de ses déchets. La ville de San Francisco a déjà franchi le seuil de 80% de déchets recyclés et compostés. C'est énorme, hein, par rapport à la moyenne des villes américaines, qui ne dépasse pas les 35%. Alors c'est la volonté politique affichée depuis 2003 qui a permis d'arriver à ce résultat, comme nous l'explique Debbie Raphaël, en charge de l'environnement à la mairie.
En fait, on aime bien dire à San Francisco, mais si vous n'êtes pas en faveur du zéro déchet, vous êtes en faveur de combien de déchets ? Nous sommes rendus compte que quand on a des ambitions très fortes en matière de zéro déchet, que vous soyez une ville de 900 000 habitants comme San Francisco, de 12 millions ou de 1000 habitants, c'est le même problème en fait qui se pose et les solutions doivent être les mêmes. Au final, c'est la responsabilité de chacun qui est engagé en ce qui concerne le zéro déchet. Que vous soyez une entreprise, un citoyen privé, un écolier, un élu de la municipalité, nous avons tous un rôle à jouer et nous sommes convaincus que c'est en coopérant que nous allons arriver à parvenir à ce zéro déchet.
Mais il faut que vous impulsiez quand même une politique qui a été entamée déjà depuis nombreuses années. Alors expliquez aux maires des villes qui nous écoutent à travers cette émission quelles sont les recettes pour parvenir au zéro déchet.
Nous avons commencé en demandant aux gens, s'il vous plaît, faites quelque chose, participez. Et puis en fait, nous sommes rendus compte au bout d'un moment qu'il fallait vraiment définir des politiques, définir des objectifs. Et en 2003, San Francisco est devenue la première ville aux États-Unis qui exigeait le compostage et le recyclage de toutes les entités, que vous soyez un particulier, que vous soyez une entreprise, que vous soyez une école. Le deuxième élément, c'est que vous devez investir dans l'infrastructure. Et nous avons beaucoup investi dans le recyclage, dans le compostage. Récemment, nous venons d'investir 14 millions de dollars pour améliorer notre entité de tri qui se trouve à San Francisco. Le troisième point, c'est l'éducation. C'est-à-dire, nous avons beaucoup investi pour éduquer, former chaque résident de San Francisco pour que tout le monde sache exactement qu'est-ce qui va dans quoi. Par exemple, nous menons des actions auprès de milliers de personnes tous les jours, auprès de milliers d'enfants. Nous envoyons aussi des équipes qui font du porte-à-porte et nous éduquons donc tous les résidents de San Francisco, que ce soit de petites entreprises, que ce soit des particuliers. On fait vraiment tout ce qui est en notre pouvoir pour s'assurer que les gens savent exactement ce qui se passe et ce qu'ils doivent faire. Et enfin, il y a certaines choses qu'on ne peut pas recycler. Par exemple, le polystyrène, les sacs en plastique. Et là, nous n'avons pas peur de prendre des actions radicales et d'interdire ces articles et de dire « Vous ne pouvez pas vendre ces sortes de choses dans notre ville de San Francisco. »
There was corn, corn blowing on a horn in the store, in the store. There was corn, corn blowing on a horn in the corner grocery store.
Nous sommes à San Francisco en Californie et nous nous intéressons à la politique zéro waste, zéro déchet de la ville. Nous sommes avec Stéphanie Rény qui vit depuis 4 ans à San Francisco et qui a créé Feel Good, un site internet pour justement limiter ses déchets à la maison. Et là nous sommes avec Stéphanie dans le temple des courses en vrac de la ville.
Donc là, on va trouver, ils ont énormément d'accessoires zéro déchet, donc des bouteilles d'eau réutilisables, tous les containers en inox pour les lunchbox, pour les déjeuners. Ouais, beaucoup de choses réutilisables en fait. mais la partie intéressante est juste derrière.
Ah oui, c'est quand même assez important en termes de superficie. Hein. Ouais. Donc, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ce qu'on voit là ?
Alors, on va trouver vraiment de tout. Donc, il y a à la fois des épices, du thé, du café, des pâtes, des fruits et légumes secs, des gâteaux. Après, sur les liquides, il y a des huiles, du vinaigre. Là-bas, on va retrouver, bien sûr, tout ce qui est farine, sucre, vraiment tout.
Et là, il y a tous les bocaux qui sont à disposition pour que l'on puisse se servir, même si on arrive les mains vides.
Oui, et on voit qu'il y a les balances là. Donc sur les balances, ensuite, on écrit le poids et on écrit du bocal. Et ensuite, le numéro, la référence du produit. Et voilà, c'est assez simple en fait.
Et du coup, au lieu de revenir chez soi avec des courses qui vont faire plein de déchets, carton, plastique, eh bien, soit on installe ses bocaux sur ses étagères, voilà. Soit on les vide dans les récipients qu'on a à la maison, mais on n'a pas de déchets dans sa poubelle.
On n'a rien.
Cette politique zéro déchet affichée par la ville, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu pervers? Parce qu'en fait, on parle de zéro déchet, comme si à terme, il n'y en aurait plus. Sauf qu'en fait, on a l'impression que la politique de la ville, c'est plutôt jeter, derrière on s'occupe de tout.
C'est exactement ça. C'est vrai que quand on parle de zéro déchet, c'est un peu trompeur. Le terme est un peu trompeur. Le compost et le recyclage, c'est super. Mais en fait, ce qu'il faut que les gens vraiment intègrent, c'est qu'il y a des solutions beaucoup plus efficaces que ça. Et la solution, c'est la réduction des déchets. Par exemple, les pailles. Donc ici, c'est vrai qu'il y a des pailles partout. On va au restaurant, on a des pailles automatiquement sans rien demander. Il y a une interdiction qui vient d'être passée par la ville de San Francisco. Et donc, ce qu'on voit, c'est du coup des alternatives, des pailles compostables. Bon, on se dit, ok, c'est compostable, c'est bien. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'une paille à la base? Et même si cette paille, elle est compostable, il faut quand même des matériaux, de l'énergie, du transport. Et tout ça, ça fait des émissions de CO2, c'est des ressources naturelles qu'on utilise pour utiliser une paille dont on n'a pas vraiment besoin.
Fleur Berlinguen, c'est tout le paradoxe du recyclage que Stéphanie Régnier vient de dénoncer. Et c'est vrai qu'avec la crise sanitaire, les objets jetables sont redevenus très tendance.
Oui, alors sans parler du masque qui...
Non, mais je pense aux couverts.
Mais les couverts, oui. En fait...
La perte du vrac, même si, ils ont publié des chiffres, finalement, ça repart. Mais
ça repart,
on n'a pas trop envie de se mélanger aux autres en ce moment.
Effectivement, mais il faut espérer que ce soit temporaire et que tout revienne à la normale, en tout cas sur ces pratiques-là qui ne sont pas incompatibles avec la sécurité sanitaire, il faut le rappeler tout simplement. Mais sur les exemples que pointait la jeune femme de San Francisco, on est effectivement exactement là-dedans avec le paradoxe du recyclage, parce qu'en fait, dès lors qu'on cherche à recycler des produits qui devraient même pas exister, parce qu'ils représentent une surconsommation de ressources naturelles, on n'est pas dans le petit pas vers la solution, on est plutôt dans quelque chose qui nous éloigne de la solution. Donc c'est vraiment pour ça que je pense qu'il faut se permettre de critiquer le recyclage ou en tout cas d'affirmer que le recyclage n'est pas forcément la solution à prioriser dans certains cas, parce que dans certains cas, il faut tout simplement arrêter de produire et de consommer certains emballages ou certains objets à usage unique.
Oui, parce qu'en fait, la perversité, c'est que pour que ce soit rentable, parce qu'évidemment qu'il y a des filières industrielles qui se créent pour recycler les matières plastiques, verre, carton, etc. Pour que ce soit rentable, il faut du flux.
Il faut des volumes suffisants, effectivement. Donc c'est un peu un cercle vicieux, parce qu'après, il faut alimenter la machine, effectivement. Et puis après, il y a d'autres effets pervers aussi. C'est que, tout simplement, le recyclage aujourd'hui est utilisé comme argument de vente, comme argument marketing, pour nous faire parfois acheter plus que ce dont on aurait besoin. Par exemple, des grandes enseignes du textile, de la fast fashion, qui proposent des bons d'achat en échange des vêtements qu'on rapporte pour recyclage. Donc ça, typiquement, c'est une instrumentalisation du recyclage pour finalement alimenter un système où on renouvelle très fréquemment des achats alors que ce n'est pas nécessaire et où on consomme toujours plus de ressources.
Donc en fait, il faut penser à chaque fois qu'on fait un achat à la base... Combien de ressources naturelles sont nécessaires pour fabriquer cet objet? Mais ça demande quoi? Des années d'études?
Oui, alors évidemment, on ne peut pas connaître l'analyse de cycle de vie de chaque produit que l'on va acheter. Par contre, on peut se poser la question de savoir est-ce que la durée d'utilisation va être suffisante pour que cette forme d'investissement environnemental, l'investissement en ressources, matières premières, énergie, eau, qui ont été nécessaires pour le produire, est-ce que cet investissement environnemental va être rentabilisé? Alors, pour utiliser des termes un peu économiques, mais c'est pour voilà, qu'on se représente. Finalement, si la durée d'utilisation elle est de quelques secondes, quelques minutes ou même quelques jours, c'est pas suffisant pour que cet investissement soit rentabilisé.
Voilà, c'est une des pistes. Il faut penser à la durée de vie de l'objet.
Et au nombre d'utilisations. Parce que, après, évidemment, il ne faut pas tomber dans collectionner des sacs en coton, par exemple, chez soi, qui vont être réutilisables. Mais si on en a tellement et qu'on ne les réutilise pas dans la réalité, ça ne sert à rien aussi.
Mais parce que le recyclage, ça a quand même des vertus.
Ah, ça a tout à fait des vertus. Et d'ailleurs, l'objet de ce livre, c'est absolument pas de dire qu'il faut arrêter de recycler, mais simplement qu'il faut se poser les bonnes questions, à savoir qu'est-ce que je suis en train de recycler, enfin, qu'est-ce que je cherche à recycler, est-ce que cet objet, ce produit a une réelle valeur, est-ce qu'il correspond réellement, est-ce qu'il répond vraiment à un besoin, donc qu'est-ce que je cherche à recycler et de quelle manière. Et donc là, il faut aussi questionner la manière dont est organisé le recyclage pour pouvoir l'améliorer. Mais on aura toujours besoin de recyclage pour recycler les objets durables, à minima.
Alors justement, on fait quoi? Comment est-ce qu'on choisit les bons objets? Comment est-ce que l'on recycle au mieux? Eh bien, on en parle juste après une pause musicale en compagnie du groupe Trio Greenwashing.
On veut du greenwashing. On veut des tours d'avion, des Airbus, du diesel, des mandarines toutes les saisons, des grands voyages dans le ciel, du high-tech à la maison, de la nouvelle technologie. On veut pouvoir dire pardon et soulager son esprit.
On veut de la viande d'Argentine, de la biloche à tous les repas, de la world food dans la cuisine. On veut du sucre, on veut du gras, on veut moins cher, on veut meilleur, on veut toujours un peu d'ailleurs.
On veut la mer, on veut l'été, même en hiver, on veut bronzer, on veut du
C'est nous les as, les Pinocchio du marketing.
On veut du green.
On cache les galets sous le sable. On veut des plages de sable blanc. Du réseau pour nos portables. On voudrait quatre bars tout le temps. Des orgies raisonnables, des grands échangeurs de béton et des amis toujours joignables.
On veut des baleines et du thon. On veut du green.
On veut de l'eau toujours qui coule et des rides un peu moins creusées. On veut de la jeunesse en poudre et puis de la neige en été.
Des grands buildings sous le soleil, des monuments pharaoniques.
On veut partout, partout pareil, de la wifi, du numérique. On veut du green.
C'est nous les as, les Pinocchio du marketing.
On veut du green.
Phosphate, des shampoings tout organiques. Des forêts pour nos 4x4, du charbon dans nos cosmétiques.
Des slogans abusifs, plus blanc que blanc, plus vert que vert.
Mascarade écologique pendant qu'on shoot au nucléaire. On veut du green.
Le groupe Trio Greenwashing dans C'est pas du vent sur RFI.
RFI. Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Il faut redéfinir le grotesque en fait. On ne se rend plus compte que les milliers de petites actions qu'on fait tous les jours sont grotesques pour la plupart. aussi grotesque qu'à l'époque où tout le monde fumait, par exemple. Quand la clope est arrivée, le médecin fumait dans la pièce du mec qui allait mourir d'un cancer du poumon, en lui expliquant ouais, c'est pas de bol. Hein. Et on s'est rendu compte que c'était grotesque, et maintenant tout le monde le sait. Avec le recul, on se dit que c'était aberrant. Et ben en fait, il y a plein de petites conneries comme ça dans notre quotidien qui sont du même niveau que cette histoire de clope. Et c'est la bonne idée d'arrêter de les faire. C'est ça la vraie idée.
C'est pas du vent sur RFI.
La bonne idée de Fra, le chanteur de Chaka Ponk. Notre invitée aujourd'hui est Flore Berlingen, directrice de Zero Waste France, qui vient de publier « Recyclage, le grand enfumage, comment l'économie circulaire est devenue l'alibi du jetable ». C'est publié aux éditions Rue de l'Échiquier. Alors pour être clair, Flore Berlingen, vous l'avez dit un peu tout à l'heure, mais ce n'est pas le recyclage en tant que tel que vous condamnez, mais l'industrie du jetable qui l'alimente.
Absolument. En fait, l'industrie du jetable, elle est quand même attaquée de toutes parts aujourd'hui, parce que les préoccupations environnementales des citoyens ont quand même progressé. Et donc, pour faire face à ces critiques, elle a dû aussi se trouver des arguments et construire cette justification autour de l'économie circulaire, autour du recyclage. Alors, ça ne veut pas dire que tout est à jeter dans l'économie circulaire, qui représente bien plus que le recyclage théoriquement. Mais bon, malheureusement, l'économie circulaire est souvent réduite au recyclage. Donc, ce discours autour du recyclage et surtout du recyclage, enfin ce mythe du recyclage à l'infini, ça permet à l'industrie du jetable de rendre acceptable en fait cette surconsommation. Mais en réalité, c'est un mensonge, puisque le recyclage ne suffit pas à rendre soutenables les produits jetables, les produits à usage unique.
Surtout que l'usage n'est pas infini. Hein. Si on ne peut pas recycler le plastique indéfiniment, le papier indéfiniment, tout ça est limité. Et à chaque fois, on perd de la matière, on consomme de l'énergie.
Exactement. On a besoin de faire des apports en matières premières vierges pour compenser la dégradation des matériaux à chaque cycle de recyclage, s'agissant du plastique ou du papier, par exemple. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a des consommations associées au cycle de recyclage en lui-même. C'est un processus industriel qui, lui-même, consomme de l'eau, de l'énergie, etc. Et donc, ça fait que, contrairement à l'économie circulaire dans le monde de la nature, qui est souvent prise en exemple, donc le cycle organique, qui peut se faire de manière autonome, pour le recyclage, ça n'est pas du tout le cas.
Et oui, dans la nature, il n'y a pas de déchets. Alors, l'une des solutions pour limiter la quantité de déchets, c'est l'éco-conception des objets. Bonjour Agnès Crépet.
Bonjour.
Vous êtes responsable informatique de Fairphone. Alors, Fairphone, c'est une entreprise néerlandaise qui, depuis 2013, essaye de changer l'industrie du smartphone de l'intérieur. Alors, je rappelle que plus d'1,5 milliard de téléphones sont vendus chaque année dans le monde. Ils contiennent des dizaines de matériaux, des centaines de pièces provenant de milliers de fabricants. Alors, chez Fairphone, vous avez tout d'abord travaillé sur l'éco-conception de l'appareil pour qu'il soit réparable et qu'il dure plus longtemps.
Oui, tout à fait. Donc, en fait, l'objectif d'un Fairphone, c'est que vous puissiez le garder non pas 2 ou 3 ans, comme ce qu'on retrouve dans les standards électroniques, mais plutôt 5 à 7 ans. Donc, par exemple, si vous cassez votre écran ou que vos batteries ne marchent plus, qui sont les principales raisons pour lesquelles les gens veulent changer de téléphone aujourd'hui, eh bien, vous n'avez qu'à les acheter sur notre site web et vous n'avez pas à changer votre téléphone. Donc, c'est vrai que c'est assez facile de garder votre téléphone longtemps. Et ça, c'est vrai pour la batterie, c'est vrai pour les écrans, mais c'est vrai aussi pour les microphones, etc. Donc, on veut vraiment faire en sorte que n'importe qui, et même mon père peut le faire, puisse changer les pièces du téléphone sans difficulté. Et ça, c'est la clé pour faire en sorte que votre téléphone, vous puissiez le garder longtemps. Le coût CO2 nécessaire sur toute le cycle vie du téléphone, le principal coût, il est sur la production. Donc, moins vous produirez de téléphone, mieux c'est. Et pour moins produire de téléphone, il faut faire en sorte de les garder longtemps.
Vous travaillez aussi sur l'ensemble de la chaîne de production, au moins pour 8 des 46 matériaux qui composent le téléphone. Alors, de quelle manière ?
Alors, donc, on a choisi les matériaux sur lesquels on pourrait avoir le plus d'impact, ceux qui sont plus utilisés en dehors des smartphones, etc., et ceux sur lesquels on était déjà en contact avec des personnes dans les pays où se passe l'extraction. Donc aujourd'hui, on est sur ces 8 matériaux-là et on vise sur 2020-2021 d'avoir sur ces matériaux-là 70% de la quantité de produits de manière équitable. Donc ça veut dire sans enfants, sans financement des conflits armés et avec un respect des conditions de travail pour les personnes qui extraient les minerais, par exemple. Récemment, par exemple, on a beaucoup travaillé sur le cobalt.
Oui, vous venez de créer la Faire Cobalt Alliance. Alors, il s'agit de quoi ?
Donc cette alliance du cobalt équitable, elle a été lancée par nous et également par nos partenaires, Signify qui est une société qui travaille sur l'éclairage, etc. Impact Facility qui est une boîte spécialisée justement dans l'extraction de minerais de manière éthique. Et donc l'objectif de cette alliance du cobalt équitable, c'est de travailler en RDC, donc en République démocratique du Congo, et de faire en sorte de respecter les conditions de travail des gens sur place. Donc c'est ce que je viens de dire, on fait en sorte qu'il n'y ait pas d'enfants, on fait en sorte qu'il n'y ait pas de financement des conflits armés, on fait en sorte aussi que les conditions de vie qui sont bien souvent intimement liées aux conditions de travail des gens sur place soient bonnes. Donc, si les enfants ne travaillent pas, ça veut dire qu'il faut leur fournir des écoles, il faut leur fournir des programmes éducatifs, etc. Donc, tout ça fait partie de la Cobalt Alliance. Et on n'est évidemment pas tout seul. Récemment, d'autres personnes nous ont rejoints. Glencore, qui est un énorme partenaire, pas très connu du grand public, mais qui fournit aujourd'hui 60% de la production de cuivre dans le monde.
Oui, Tesla, qui est un gros industriel de la mine, oui.
Ouais, Glencore, c'est énorme. Et Tesla, c'est connu, voilà, nous a rejoint aussi récemment. Donc, on est très contents, parce que l'objectif de Fairphone, c'est pas de faire un téléphone éthique, c'est de changer l'industrie électronique. C'est vraiment notre but ultime. L'approche de Fairphone, c'est celle d'un design systémique, et le système, c'est vraiment l'industrie électronique. Ce qui nous intéresse, c'est de changer ce monde-là. C'est vrai que c'est pas évident. Mais quand on voit des succès comme l'alliance du cobalt équitable, ben on est content. Ça veut dire qu'on n'est pas tout seul et que grâce au volume de Tesla, de Glencore, etc., on va pouvoir changer les choses sur place.
Oui, parce qu'en fait, vous avez des concurrents sérieux. Hein. Aujourd'hui, Fairphone est un petit acteur qui grimpe, certes, mais c'est un petit acteur dans le monde de la téléphonie. Est-ce que vous dialoguez avec vos concurrents ?
Oui, donc tout à fait. Hein. Je vous parlais de Tesla, Glencore, Signify, Sono Motors sur l'affaire Cobalt Alliance, mais on dialogue avec d'autres personnes. Récemment, depuis quelques temps, on travaille en Ouganda, par exemple, sur le fait de sourcer de l'or dans ce pays-là, avec notamment Philips, qui nous a rejoint sur un programme pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'enfants dans les mines d'or dans ce pays-là. Donc oui, on travaille avec beaucoup de personnes. Un de nos indicateurs de performance, c'est justement de mesurer le nombre de personnes, le nombre d'autres sociétés qui nous suivent dans l'industrie électronique. Et l'objectif, c'est qu'on a un peu moins d'une vingtaine de partenaires qui nous suivent sur 2020. Donc vraiment, c'est l'objectif de Fairphone, de faire en sorte d'influencer les autres.
Merci beaucoup Agnès Crépet pour toutes ces précisions. Fleur Berlingen, qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est extrêmement intéressant parce que ça s'attaque à l'amont, à la conception des téléphones en l'occurrence, là où la plupart des concurrents que vous mentionniez, ils parlent beaucoup de recyclage, de collecte des vieux téléphones pour tenter de les recycler, mais en réalité il n'y a pas grand chose qui est récupéré et ils s'attaquent pas à cette phase de conception. Donc cette démarche là elle se distingue et elle est vraiment intéressante sur le long terme. J'espère qu'ils pourront aller aussi bien au-delà des 5 à 7 ans de durée d'utilisation. Il faudrait aussi arriver à augmenter sans qu'il y ait forcément de date limite.
Oui, mais on voit bien que quand même la démarche dénote un peu par rapport aux autres industriels et c'était à saluer. Alors le déchet dont on parle le plus, hein, même dans cette émission, c'est le déchet plastique. C'est vrai que sa consommation a explosé, notamment à cause des emballages. On en trouve partout, ça pollue l'océan, ça pollue les forêts, ça pollue les rivières. C'est incroyable à quel point le plastique a pris de la place dans notre environnement.
C'est devenu un des marqueurs hein, de notre civilisation, effectivement. On y pense beaucoup en termes de pollution, peut-être parce que c'est visible. Le plastique qui est abandonné dans la nature, dans les écosystèmes, il est visible. Alors, il n'est pas toujours visible parce que parfois réduit à l'état de micro-fragments. Mais disons qu'en tout cas, c'est quelque chose qui nous interpelle dans notre quotidien. Ce dont on parle moins, mais qui est au moins aussi important et grave, c'est l'impact de la production du plastique lui-même. On se représente pas forcément derrière les objets plastiques qui nous entourent ce que ça signifie en termes d'industrie chimique et de conséquences environnementales et sanitaires pour les populations qui vivent autour des usines en question, pour les personnes qui travaillent dans cette industrie. C'est la face cachée de l'iceberg, mais qui est extrêmement importante aussi, surtout qu'on a cette image du plastique comme étant quelque chose de propre. On parlait de la crise sanitaire, qui a renforcé peut-être encore cet aspect que le plastique jetable, c'est la garantie de notre sécurité sanitaire, c'est propre, c'est sain. Alors qu'en fait, il y a un impact sanitaire en amont qu'on ne visualise pas suffisamment bien.
Alors du coup, il y a dans le monde entier des initiatives pour recycler les plastiques. Je vous propose d'aller par exemple à Medellin, la deuxième ville de Colombie, où la compagnie de transport a mis à disposition une machine qui permet de transformer les bouteilles en plastique en ticket de métro. Alors c'est à l'initiative d'une jeune entreprise qui s'appelle Cyclo, qui a lancé le concept il y a 2 ans. L'idée a fait son chemin jusqu'au Parlement, puisqu'une sénatrice colombienne, Ruby Chagui, vient de présenter une proposition de loi visant à étendre ce procédé dans tout le pays. Najed Benraba est allée voir cette fameuse machine de plus près.
On se trouve dans la station de métro Universidad, où la première machine de Cyclo pour recycler les bouteilles en ticket de métro a été installée. Je suis avec le responsable. Bonjour.
Hola, ¿cómo estás?
Bonjour, ça va? Je m'appelle Miguel Uribe. Je suis le gérant et l'un des fondateurs de Cyclo, une entreprise qui développe de la technologie pour trouver des solutions de recyclage.
Justement, je disais que vous avez créé la machine très originale qui permet de recycler des bouteilles en ticket de métro. Expliquez-nous comment ça fonctionne.
Nous avons conçu une machine dans laquelle les gens peuvent déposer des bouteilles en plastique et des canettes en aluminium et recevoir en échange, immédiatement, dans la même machine, des crédits de voyage pour le métro de Medellín. Ce que fait la machine, c'est identifier quel type d'emballage elle reçoit, plastique ou aluminium. Elle sépare les deux matériaux, les compresse, puis les compte et recharge immédiatement la carte de transport de l'usager. C'est un peu comme un distributeur.
Donc du coup, je dois mettre la bouteille là dans ce rond, là, ici, et ensuite la machine va directement le prendre et me dire combien je récupère d'argent.
Oui. C'est aussi simple que ça. L'usager glisse la bouteille et la machine referme automatiquement une petite porte en verre. La bouteille est transportée par une bande glissante et poursuit tout le processus d'identification et de compression. Et le succès a été une réelle surprise. On a dû mettre en place un nombre limité de bouteilles acceptées par jour et par personne, parce que les gens apportaient beaucoup trop d'emballage. Ça compliquait le processus. Il y avait de longues files d'attente et des personnes ne pouvaient pas recharger leurs cartes car ils devaient partir au travail. On a donc établi une limite. Maintenant, chaque personne a besoin de 2 à 5 minutes maximum pour le processus de recharge. Et on a limité le nombre de bouteilles à 90, ce qui représente plus ou moins l'équivalent de 2 voyages en métro. Chaque emballage rapporte 50 pesos. Et du coup, pour un voyage, il faut plus ou moins 45 bouteilles, et donc 90 pour 2 voyages.
Combien de bouteilles du coup vous récupérez à la semaine, plus ou moins, depuis le jour où vous avez commencé?
Nous récoltons chaque jour en moyenne entre 3000 et 4000 bouteilles par machine. Nous avons en ce moment 5 machines en fonction. On récupère donc entre 12 000 et 15 000 bouteilles par jour. Ce rythme nous a permis d'atteindre l'objectif de plus de 6,5 millions de tonnes de bouteilles récoltées en fin d'année 2019. Et ça va faire environ 1 an et demi, presque 2 ans que le système fonctionne.
C'est un succès complet là.
Oui, surtout qu'on parle de recyclage. Et tout ça, c'est grâce aux usagers du métro. On s'est rendu compte de l'impact à travers leurs témoignages. Et ça nous fait du bien. C'est vraiment ce qui nous rend le plus fiers. Car il faut voir les difficultés d'un usager du métro. Il faut comprendre que le but du métro de Medellín et d'offrir un transport aux personnes qui sont le plus dans le besoin et vivent très loin de leur lieu de travail, qui ont très souvent des petits salaires. Alors en moyenne, un usager va dépenser entre 15 et 35% de ses revenus dans le transport. Grâce à ce système, certains utilisateurs ont pu réduire le coût ou ne plus rien dépenser pour le transport. Car la famille, les voisins, les collègues leur donnent des bouteilles en plastique parce qu'ils savent qu'ils vont les transformer en tickets de métro.
Il faut aussi expliquer que ce type de projet est né parce qu'il y a un contexte de loi, on va dire qu'il y a un contexte juridique qui pousse vers ça. Vous pouvez nous expliquer ?
Oui, En Colombie, il existe une résolution, la résolution 1407, qui veut augmenter le taux de récupération et de recyclage des emballages et des briques en carton, c'est-à-dire tous les emballages des produits qu'on utilise au quotidien, mais qui à la fin sont juste des déchets. On parle donc du plastique, de l'aluminium, avec lesquels nous travaillons en ce moment, mais aussi le papier, le carton, le verre et d'autres matériaux comme les planches d'agglomérés. Le but de la loi est en premier lieu que les entreprises déclarent leur production, la quantité d'emballages et de matériaux qu'elles génèrent sur le marché, pour ensuite exiger qu'elles participent au processus de récupération et recyclage. Pour 2021, l'objectif est de recycler 10% de ce qui a été introduit sur le marché. Et l'objectif est d'arriver en 2030 à 30% de recyclage de ces matériaux.
Reportage de Najet Benrabah. Flore Bergnon, qu'est-ce que vous pensez de cette idée ?
Alors, on peut avoir l'impression que c'est une bonne idée parce qu'à court terme, ça peut permettre de capter plus de bouteilles en plastique, d'éviter qu'elles se retrouvent dans la nature, etc. Par contre, moi, je suis convaincue qu'à long terme, c'est une fausse bonne idée. Déjà parce qu'on mélange peut-être plusieurs problématiques. Hein. La question du transport, c'est une vraie question à prendre à bras-le-corps. Il y a peut-être d'autres moyens de la régler que de passer par le plastique. Et puis ensuite, parce que considérer le plastique, la bouteille en plastique, le déchet plastique comme une monnaie d'échange, je pense que ça va rentrer forcément en contradiction avec l'objectif de réduire la consommation de plastique. Et ça, c'est, on peut pas faire l'économie de ça, de se poser la question de quel est le plastique qui nous est vraiment indispensable et à long terme pour ne pas avoir à sacrifier l'essentiel et de voilà remettre en question le superflu.
Alors, il y a d'autres solutions. On en parle après une pause musicale en compagnie de The Police. dans C'est pas du vent sur RFI. Nous sommes en compagnie de Flore Berlingen, directrice de Zero Waste France, qui vient de publier Recyclage, le grand enfumage aux éditions Rue de l'Échiquier. Alors en France, Flore Berlingen, il y a la loi AGEC, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui a été adoptée en janvier dernier. Alors est-elle assez ambitieuse selon vous ?
Alors, pour aller beaucoup plus loin sur la réduction des déchets, pas encore suffisamment ambitieuse malheureusement. Par contre, on peut quand même souligner quelques mesures intéressantes parce qu'on avait déjà quelques interdictions qui étaient mises en place sur certains produits en plastique jetable, les sacs plastiques, les cotons-tiges, les pailles, etc. Et là, cette loi va un petit peu plus loin en ciblant des pratiques et notamment, par exemple, le fait qu'on propose trop souvent les repas dans des emballages jetables, même quand on mange sur place. En restauration. Voilà, cette loi s'attaque à ce problème-là et donc ce sera plus possible à partir de 2022. Donc ça, c'est plutôt une avancée. Il faudrait évidemment aller plus loin et élargir ce genre d'interdiction sur des choses qui sont un petit peu du bon sens finalement.
Oui, mais on peut déjà saluer en tout cas l'existence de cette loi qui n'existe pas dans de nombreux pays. Alors, une des mesures phares de cette loi, ce devait être le retour de la consigne qui finalement a été repoussée. Bonjour Alice Abba.
Bonjour.
Vous êtes la coordinatrice du réseau Consigne en France. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi consiste rapidement la consigne et quelle est son ampleur aujourd'hui en France ?
Oui, donc la consigne, ça consiste à mettre une valeur à un emballage afin qu'il soit restitué pour ensuite être lavé et réutilisé.
Et donc, aujourd'hui, quelle est l'ampleur de la consigne en France ?
Oui, alors la consigne, elle a disparu dans les années 80 avec l'arrivée du tout jetable. Elle subsiste encore dans les cafés, hôtels, restaurants où 30 à 40% des boissons sont encore consignées pour être lavées et réutilisées. Elle existe encore en Alsace aussi, où 25 millions de bouteilles sont encore réemployées chaque année. Mais dans le reste du territoire, elle a disparu. On assiste cependant aujourd'hui à un retour des projets de consigne pour emploi avec un dynamisme sur tout le territoire. Un dynamisme qui est aussi poussé par une volonté des consommateurs et des consommatrices de voir le retour de la consigne pour emploi. Il faut noter que 90% des Français et des Françaises veulent le retour de la consigne sur les bouteilles en verre, par exemple.
Alors, ce qui est bête, c'est qu'on avait toutes les infrastructures dans les années 80, et puis petit à petit, ça a disparu, faute de circuits. Quels sont les freins aujourd'hui ?
Aujourd'hui, les freins, ils diffèrent en fonction des contenants, mais globalement, c'est le prix du jetable qui n'est pas assez prohibitif. C'est, vous l'avez dit, la disparition de l'infrastructure de lavage. Il faut remailler le territoire en laveuse industrielle et ça nécessite des investissements qui sont conséquents. Le manque d'obligations qui pèse sur les producteurs pour réinvestir dans les infrastructures permettant le réemploi, un manque d'obligations qui pèse aussi sur les distributeurs pour reprendre les emballages consignés. Et puis, c'est aussi des freins plus techniques comme l'absence de standardisation des contenants qui compliquent la logistique notamment.
Pourtant, il y a des exemples qui prouvent que ça marche.
Oui, alors c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est au sein du réseau Consigne sont rassemblés les projets de réemploi des emballages et on voit des filières régionales qui se recréent et qui travaillent avec les producteurs de jus, les producteurs de bière, les producteurs de vin. Vous avez Bout à Bout, par exemple, Pays de Loire, ma bouteille s'appelle Revient en Dromardèche. Vous avez des producteurs de boissons qui font du consigné, toujours en Alsace notamment. Vous avez aussi sur d'autres types de contenants, sur les boîtes à repas, des projets qui se mettent en place pour proposer des boîtes consignées pour les restaurateurs. Sur la cosmétique, vous avez de plus en plus de projets de flacons cosmétiques consignés, sur les colis pour le e-commerce. Donc voilà, il y a un réel dynamisme et des projets qui marchent et qui se mettent en place.
Merci beaucoup Alice Abba pour toutes ces explications. Flore Berlingen, en conclusion, c'est une question de volonté politique. On va dire encore faut-il qu'il y ait une prise de conscience globale des enjeux pour que le recyclage ne soit pas l'alibi des industriels du jetable. Et pour l'instant, on n'y est pas.
Pour l'instant, on n'y est pas tout à fait, parce que c'est peut-être plus facile d'investir dans le recyclage. La réduction à la source, la prévention, c'est plein de petites actions qui doivent se déployer sur les territoires à plus petite échelle. Donc, il faut faire dans la finesse.
Il y a
beaucoup d'emplois, beaucoup d'activités à développer et à redévelopper à l'échelle locale. Mais c'est déjà en train de se faire. Donc, en fait, c'est aussi à nous de nous tourner vers ces alternatives pour leur donner une chance aussi, les soutenir. Et voilà, les projets cités dans le cadre du réseau Consigne en font partie et on peut aussi d'ores et déjà les soutenir.
Merci Flore Berlingen d'être venue dans C'est pas du vent. Je rappelle le titre de votre livre, Recyclage, le grand enfumage. C'est publié aux éditions Rue de l'Échiquier.
Merci beaucoup.
Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et à vous pour votre fidélité. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux où vous pourrez découvrir des bonus de nos invités en vidéo, échanger avec nous, partager aussi vos initiatives dans le domaine de la protection de l'environnement. Nous serons ravis de les relayer. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve demain, même planète, même heure.